Il est 7h50. Léa Salamé, votre invitée ce matin, est présidente de Crisis Group.
Bonjour Robert Mallet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez été conseiller de Bill Clinton, puis principal conseiller de Barack Obama sur le Moyen-Orient. Un an après l'investiture de Donald Trump, un an de scandale, de provocation et d'effroi pour des gens comme vous, les progressistes américains. Mes questions, si l'élection de Donald Trump avait lieu ce week-end, est-ce que vous pensez qu'il l'emportera à nouveau ?
Comme on a tous été un peu... Ça a été le choc il y a un an, donc je ne veux pas faire de prévision. Je pense qu'on s'était tous trompés à l'époque. Je pense que c'est important aujourd'hui, c'est un président qui essaie de consolider sa base, qui a perdu beaucoup d'autres soutiens, parce qu'à cause des scandales, à cause de ses propos parfois totalement irrationnels. Mais il a sa base, l'économie est là, et puis le Parti démocrate, c'est à la fois un désert et un fouillonnement de personnes qui veulent être président.
Mais est-ce que vous le voyez, celui qui pourrait défier Trump dans 3 ans, venir du Parti démocrate ?
C'est trop tôt pour le dire.
Il n'y a personne aujourd'hui.
Aujourd'hui, il n'y a personne. Comme je dis, c'est un désert, mais en même temps, c'est un désert où il y a tout un tas de gens qui veulent s'affirmer. Donc, c'est un désert très peuplé.
Donc, vous attendez les élections de mi-mandat pour voir une personnalité émerger, c'est ça ?
C'est ça. Il faudra à ce moment-là voir une, deux, peut-être, il y aura sans doute une douzaine, peut-être une vingtaine de candidats, ça ne m'étonnerait pas.
Alors, il y a quelque chose de paradoxal sur la politique étrangère de Donald Trump, c'est que d'un côté, il semble isolationniste, et de l'autre, il annonce une grande politique de réarmement et il est proche des généraux qui, eux, sont interventionnistes. Alors, vous le placez où, Donald Trump, un an après son arrivée au pouvoir ? Est-ce que vous arrivez à le qualifier ? Il est isolationniste ? Il est interventionniste, il est où ?
C'est un guerrier isolationniste. C'est-à-dire c'est quelqu'un dont la base et sa campagne était fondée sur le fait qu'il ne fallait pas intervenir à l'étranger. Il était contre l'intervention en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie, etc. Mais en même temps, il s'est entouré de généraux. Il croit beaucoup à l'image de la force américaine. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment des convictions. Donc, il va là où son instinct le porte. Et son instinct le porte à la fois dans cette attitude belliqueuse et cette idée que les États-Unis ne doivent pas s'occuper de l'étranger. Ils ne doivent s'occuper que d'eux-mêmes. D'où les contradictions et souvent le tie-break, ce qui fait la différence, c'est qu'est-ce qui va le distinguer d'Obama ?
C'est ça en fait, c'est-à-dire que la plupart de ces décisions sont mues par l'idée de déconstruire la politique d'Obama ?
Je ne sais pas si elles sont mues par une idée quelconque, mais ce qu'on voit comme thème souvent, c'est l'idée de déconstruire tout ce qu'a fait Obama. Et on l'a vu dans l'affaire du plan de santé, ce qui est quand même assez scandaleux parce que ça commençait à marcher, dans la normalisation avec Cuba, l'environnement, le trade, le commerce.
Le commerce.
Et maintenant, l'Iran. Et l'Iran, c'est peut-être le dernier qui reste et c'est sa dernière cible. Également.
Alors sur l'Iran, il veut déconstruire l'accord nucléaire historique que vous avez contribué à négocier puisque vous étiez l'un des négociateurs principaux de l'équipe Obama. Vous dites que c'est surprenant d'un point de vue économique, puisque ça va fragiliser les entreprises américaines qui pouvaient faire du business avec l'Iran. Pour vous, sortir de cet accord, on ne sait pas s'il va vraiment sortir de cet accord à cette heure, mais pour vous, ce serait une catastrophe ?
D'abord, ce n'est pas vraiment l'aspect économique, parce que ça n'aide pas les entreprises américaines, mais ce qui est important ici, c'est que tout le monde reconnaît que cet accord marche. C'est évidemment le point de vue de l'AIEA, de l'organisation atomique qui est chargée de regarder, vérifier que l'Iran respecte ses obligations. C'est également le cas de tous les pays signataires, y compris la France. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec mes collègues français. C'était les plus pointilleux. Parfois, c'était un peu difficile, mais ils ont eu raison d'être pointilleux. Et en fin de compte, eux-mêmes disent l'Iran respecte l'accord. Même les États-Unis disent que l'Iran respecte l'accord. Donc tout le monde le dit. Ce serait quand même un cas assez extraordinaire d'un accord qui marche, dont le signataire, l'Iran, respecte ses obligations, mais les États-Unis, pour des raisons politiques et par une obsession de fixation sur la question iranienne, et parce que le président Trump est déterminé à déconstruire l'héritage d'Obama, qu'il se décide de se retirer d'un accord. Et là, est-ce que ça sera une catastrophe ? Pas nécessairement. On peut parler, alors c'est l'attitude de l'Europe qui déterminera sans doute si l'accord pourra survivre ou non.
Mais vous en attendez beaucoup de l'Europe. Vous dites Trump, c'est une chance pour l'Europe. Est-ce que vous n'en attendez pas trop de l'Europe ?
Moi, je suis un peu européen de cœur. J'ai vécu longtemps en France et j'entends souvent de la part des Européens, des Français en particulier, cette idée que les États-Unis en font trop et veulent pas que d'autres participent à leur diplomatie. Ce qui est sans doute vrai. On l'a vu dans beaucoup de cas où j'ai même travaillé, comme le processus de paix israélo-palestinien, où les États-Unis essayent un peu de faire en sorte que personne d'autre ne s'ingère. Mais là, il y a une chance pour l'Europe de s'affirmer parce qu'on a un président qui s'est aliéné l'opinion publique mondiale, on le voit dans les sondages, qui a abandonné les valeurs traditionnelles de l'Occident, qui veut déchirer des accords qui sont déjà été passés, qui ignore l'Afrique, ça c'est un terrain sur lequel Crisis Group fait beaucoup de travail, on ne voit pas les États-Unis. Donc il y a l'occasion pour l'Europe aujourd'hui de dire, on peut défendre des valeurs, on peut défendre des intérêts globaux.
Oui, mais quelle Europe, Robert Mallet? Pardon, mais Angela Merkel, oui, on le voit, peine à former son gouvernement. Emmanuel Macron semble isolé, il semble seul au milieu d'une poussée nationaliste. Est-ce que vous ne pensez pas au contraire que l'Europe est en train de se trumpiser?
Trumpiser, je ne pense pas. Je pense qu'on s'attendait à des élections, que ce soit ici en France ou dans les Pays-Bas ou en Allemagne. Elles n'ont pas, il n'y a pas eu la victoire des populistes. C'est vrai que c'est un peu, c'est dommage qu'à un moment où les États-Unis sont dans une situation de faiblesse quand même internationale, à cause de Trump, mais aussi à cause de d'autres tendances, que l'Europe ne soit pas capable, pour d'autres raisons, peut-être certaines qui sont similaires, de s'affirmer. On a vu le président Macron dans l'histoire de l'affaire du premier ministre libanais qui a pu montrer la voie. Bon, c'est un petit exemple, mais je pense qu'il y en a d'autres où l'Europe peut faire en sorte, sauver l'accord avec l'Iran, peut-être donner de l'espoir aux Palestiniens.
Mais quelle Europe? Emmanuel Macron est un peu seul quand même là.
Et Macron, je pense, on verra bien ce qui va se passer en Allemagne, mais pour l'instant on a l'impression que la chancelière reviendra aux affaires. Bon, parfois c'est un pays, c'est l'Union Européenne qui a joué un rôle très important dans l'accord iranien. C'est pas facile, mais il faut s'affirmer à un moment où les États-Unis eux-mêmes trahissent leurs propres valeurs et sont un peu à l'écart tout de même de la diplomatie mondiale. Il faut qu'il y ait des pays qui affirment l'importance de la diplomatie, l'importance du dialogue. Et ça, pour l'instant, les États-Unis ne le font pas.
Vous n'avez pas de mots assez durs sur la politique américaine de Trump, on l'entend encore ce matin. Et pourtant, regardez les résultats économiques de l'Amérique. Oui. Regardez sa grande réforme fiscale dans le journal de Dominique Seux ce matin. Le grand titre, c'est le Big Bang en une des échos. Le Big Bang fiscal de Trump a redoré sa cote auprès des acteurs économiques à un point encore difficilement imaginable.
Eh bien, c'est vrai, et ça, c'est à moi. Bon, moi, je ne suis pas économiste. Il y en a d'autres qui pourraient me dire à quel point est-ce que c'est le résultat de Trump, le résultat d'Obama, le résultat de tendances qui n'ont à voir ni avec l'un ni avec l'autre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle Trump ne coule pas dans les sondages et qu'il aurait une chance si l'élection se déroulait demain, c'est que l'économie va bien. Est-ce que ça va durer? J'en sais rien, mais ça, je ne pense pas que ce soit vraiment le fait de Trump. L'économie américaine va bien, l'Amérique va mal.
Est-ce que l'enquête sur les interférences russes dans sa campagne et sur les liens de son équipe avec la Russie, est-ce que ça peut conduire, selon vous, à terme à un impeachment ou pas?
Ça, je ne crois pas. L'impeachment, c'est vraiment c'est une décision politique plutôt que légale. Et comme on l'a dit, la base républicaine à 80% soutient toujours Trump. Donc, et le Congrès aujourd'hui est majoritairement républicain. Il y aura peut-être un changement en 2018, mais moi, en tant que démocrate, je ne fais pas mon pari là-dessus. Le pari, ça doit être sur 2020, les prochaines élections présidentielles. Et là, il faut que le Parti démocrate s'organise, qu'il ne soit pas aussi fragmenté qu'il l'est aujourd'hui, qu'il ait une plateforme et qu'il aille au combat.
Merci Robert Mallet, président de l'International Crisis Group. Belle journée à vous.
Merci.
Merci Léa et à tout à l'heure.